Vous êtes sur RTL.
Le grand jury, RTL, Le Figaro, LCI. Invité aujourd'hui, Éric Piolle, maire Europe Écologie Les Verts de Grenoble. Le débat est dirigé par Benjamin Sportouche.
Bonjour à tous, bienvenue dans ce grand jury. Bonjour Éric Piolle.
Bonjour.
Merci d'être avec nous aujourd'hui pour votre premier grand jury. À mes côtés pour vous interroger, Marion Mourgue du Figaro. Bonjour Marion.
Bonjour.
Et Amélie Carouer de LCI. Bonjour.
Bonjour.
Amélie. En fin d'émission, comme d'habitude, Marie-Pierre Haddad nous rejoindra pour relayer vos questions, vos interpellations à notre invité. Ce sera donc dans Questions nettes. Alors Éric Piolle, beaucoup de ceux qui nous écoutent, et ce n'est pas à vous faire offense, ceux qui nous regardent aussi découvrent aujourd'hui votre voix et votre visage. Et ils vont peut-être devoir s'y habituer car vous ambitionnez un destin national. Vous pourriez en effet être sur la ligne de départ de la prochaine présidentielle. Autant dire que vous n'êtes pas franchement le meilleur ami de Yannick Jadot, député européen, qui nourrit aussi l'idée de représenter les écologistes en 2022 en profitant notamment du succès remporté par ELV au municipal. Alors brièvement, qui êtes-vous, Éric Piolle ? Vous avez 47 ans, vous êtes ingénieur de formation et vous venez donc d'être réélu, c'était tout juste hier, maire de Grenoble pour un second mandat consécutif. En 2014, vous étiez le premier édile écolo d'une ville de plus de 100 000 habitants, à la tête de ce que vous appelez un arc humaniste allant jusqu'aux insoumis de Jean-Luc Mélenchon, ce qui est loin de faire l'unanimité dans votre parti, et nous en parlerons. Vos soutiens vous voient comme un pionnier de l'écologie, anti-voiture, anti-bétonisation, quand vos opposants au contraire dénoncent sans vous l'apôtre d'une écologie punitive, dédaigneuse de l'entreprise et adepte de la décroissance. Ont-ils complètement tort ? Vous nous le direz dans cette émission. C'est donc parti pour votre premier grand jury, Éric Piolle. Et on commence bien sûr avec le changement de gouvernement qui est en cours, Amélie Carouer.
Donc un nouveau Premier ministre, Jean Castex, vous lui laissez un petit peu le bénéfice du doute ou d'ores et déjà vous dites il n'est pas l'homme, il ne sera pas l'homme de la situation.
Un homme qui est né à Vic-Fezensac, dans le pays d'Artagnan, pour un basco-béarnais comme moi, pays des mousquetaires, mon village à Arrête, il ne peut pas être foncièrement mauvais. Après, ce n'est pas tant la nomination de Castex qui est important, c'est ce que ça veut dire. Ce que ça veut dire, c'est que Macron passe d'un proche de Juppé à un proche de Sarkozy et qu'il incarne encore plus, finalement, le fait qu'il concentre tous les pouvoirs, ce pouvoir jupitérien, où il dit finalement c'est moi, comme il l'a fait lors des grands débats.
Vous laissez un peu le bénéfice du doute, là, quand même. Hein.
À Emmanuel Macron, je crois qu'effectivement, oui.
Jean Castex,
on l'a vu, c'est plutôt un serviteur de l'État, donc on verra ce qu'il fera, même si, évidemment, l'écologie n'est vraiment pas dans son radar. On le voit encore ce matin
dans son
interview au JDD.
Mais Marion Mourgue.
De dépassement, il a d'ailleurs quitté les Républicains. Est-ce que ça, pour vous, c'est un premier message positif, c'est-à-dire qu'il pourrait rassembler, d'ailleurs, les forces de gauche sont plutôt assez positives après son arrivée?
C'est plutôt un technicien, effectivement, de la méthode. D'ailleurs, c'est son discours est sur la méthode. Donc, est-ce qu'on trouvera un espace de dialogue? Nous sommes toujours prêts au dialogue. Nous l'avons été avec tous les gouvernements, quelle que soit leur couleur politique.
Mais ça veut dire quoi? C'est un effacement de la fonction de Premier ministre, pour vous?
Oui, pour moi, c'est la même
un
chose
homme
que
de paille.
Finalement, quand... Non, ce n'est pas un homme de paille. C'est un homme qui exercera son mandat, comme l'a fait Édouard Philippe, sa mission, comme l'a fait Édouard Philippe, avec conviction. Mais finalement, ce que ça dit, évidemment, c'est que là, passer d'un proche de Juppé à un proche de Sarkozy, c'est quelque part, après le message de dimanche et ses victoires écologistes un peu partout en France, c'est que Macron, au lieu de faciliter l'accouchement du nouveau monde, comme le disait Pierre Mendès France, il est plutôt en train de le bloquer.
Et c'est-à-dire que Emmanuel Macron est pour vous définitivement un homme de droite? Ou vous lui laissez quand même, là aussi, le bénéfice de vouloir construire un arc en même temps, comme vous voulez faire un arc humaniste?
Pour moi, c'est pire qu'être un homme de droite. Des hommes de droite et les femmes de droite peuvent avoir des valeurs de transmission qui sont importantes. Il y a une droite sociale en France aussi qui existe. Là, c'est plutôt un néolibéral qui assume la puissance de l'argent. Je crois que c'était sur cette ligne qu'il a été élu, qu'il a porté en 2017, avec ce renouveau qui est important, et je crois qu'il a renouvelé la pratique politique française, qui est plutôt positif. Mais de fait, c'est un néolibéral qui s'est fait absorber ou qui a choisi d'absorber la droite.
La puissance de l'argent, c'est pas rien, ce que vous dites, Éric Piolle.
Oui, tout à fait.
Marine Le Pen, qui était
reprends là, d'ailleurs, des termes qui étaient utilisés par François Bayrou avant qu'il soutienne Emmanuel Macron.
Juste un mot encore de Jean Castex. peut-être même plus qu'un mot d'ailleurs, mais il martèle d'entrée qu'il est l'homme du territoire, à vous, élu de terrain. Ça doit vous parler un tout petit peu. Il veut même des concertations dans toute la France dès cet été. Ça ne vous parle pas ?
Oui, ça me parle. Édouard Philippe aussi est un homme de territoire. Hein. Il était maire du Havre, ce qu'il redevient aujourd'hui. Donc, évidemment, là où il peut y avoir du dialogue, mais après, la question, c'est que feront-ils de cela ?
Vous dites que c'est de la com' et du ripollinage.
Non, pas du tout. Non, je dis, on va voir. Par contre, la ligne politique aujourd'hui, le message qu'envoie Emmanuel Macron, c'est le pouvoir, c'est moi. Et finalement, la ligne, je n'ai pas entendu les Français qui demandent, qui sont prêts à plus d'écologie, on l'a vu avec la Convention citoyenne, mais au contraire, on va s'inscrire dans une politique qui est clairement assumée, là, dans une droite libérale.
On va en parler de la Convention citoyenne, mais Marion Maure, tout d'abord.
Justement, sur la ligne politique, Jean Castex dit dans le Journal du Dimanche que l'écologie sera une priorité. Il est plutôt pour une écologie pragmatique, manifestement, puisqu'il parle aussi d'idéologie clivante. Mais est-ce que ces premiers mots, pour vous, c'est satisfaisant ? Ça va dans la bonne direction ?
Deux lignes, je crois, dans l'interview. Hein.
Il a dit que ce n'est pas une option, l'écologie.
Oui,
c'est pas rien.
D'autres ont essayé. Nicolas Hulot s'est engagé dans ce gouvernement avec sincérité pour voir comment il pouvait faire évoluer les choses. Il en est ressorti un peu plus d'un an après en disant « Bon, les amis, il n'y a rien à faire, donc allons peser de l'extérieur. »
Mais vous, Éric Piolle, c'est vous qui avez, pour reprendre une formule historique, le monopole de l'écologie ?
Pas du tout. D'ailleurs, c'est un mouvement de fond dans la société. Pourquoi aujourd'hui on retrouve des leaders écologistes aussi variés que Michel Rubirola à Marseille, Jeanne Barseguian à Strasbourg, Léonore Monconduit à Poitiers, Emmanuel Denis à Tours ou Pierre Urmic à Bordeaux, pour revenir dans mon sud-ouest natal, c'est qu'il y a là où Grégory Doucet, Bruno Bernard à Lyon, François Astorg à Annecy, Anne Vigneault à Besançon, et toutes les petites villes et les villages, notre secrétaire régional qui a été élu au premier tour dans un village de 1500 habitants pas loin de Grenoble, c'est qu'il y a là un mouvement de société, c'est une majorité culturelle.
Et donc à droite aussi, il y a de l'écologie.
Les électeurs de droite, ils baignent dans la société.
Mais pas leurs dirigeants, pas leurs cadres.
Leurs dirigeants, aujourd'hui, on a vu ce qu'avait fait Édouard Philippe dans ces trois ans, et on a vu en fait la ligne qui est imposée par Emmanuel Macron.
Amélie Carouer.
On attend le nouveau gouvernement, donc ministre de l'écologie, parlons-en peut-être. Avant de parler des personnes, s'il y avait un écologiste Europe Écologie Les Verts au sein du gouvernement, ce serait une trahison pour vous ?
Surtout, je ne vois pas ce qu'il viendrait y faire.
Donc ce serait une trahison pour vous ?
L'un des piliers de l'écologie, Nicolas Hulot, y a été, il a essayé, il est ressorti en disant « Les amis, laissez tomber, ce n'est pas la peine. »
Ce serait une trahison pour vous ? Pardon, je...
Je ne regarde pas les choses en termes de trahison. En fait, la partie partisane, les drapeaux et savoir qui est dans quel camp, ça m'intéresse très peu. Ça m'intéresse bien pour quand on parle de foot, quand on parle de rugby. Là, effectivement, j'ai une conviction sur les drapeaux. Ça m'enflamme. Dans la vie politique, je ne suis vraiment pas un homme de drapeau.
Pascal Canfin s'est montré intéressé, député européen écologiste. Pour vous, est-ce qu'il pourrait apporter quelque chose à ce gouvernement ? Il serait notamment intéressé par le budget.
On ne peut pas, en fait, ce qu'a montré l'expérience de Nicolas Hulot, c'est qu'on ne peut pas saupoudrer l'écologie dans un gouvernement, là où le cap, en fait, est un cap néolibéral. Ça ne fonctionne pas. Donc, qui que soit, il ira en sincérité et on travaillera avec lui, mais le cap, peut-être, j'espère, mais le cap, il est fixé par le président depuis 2017, et celui-là, c'est pas le cap de l'écologie.
Ce que vous nous dites, c'est qu'Emmanuel Macron sera jamais un président qui portera l'écologie, contrairement à ce qu'il nous dit aujourd'hui. Pour vous, c'est acquis ?
Oui.
Bon, et donc quand il fait la convention climat, revenons-y à la convention citoyenne, il reprend 146 des 149 propositions formulées, Éric Piolle. C'est quoi ? C'est pour vous, c'est uniquement de l'affichage ? Il n'y a pas aucune conviction dans cette démarche ?
Il y a un moment, c'est la voiture balai de la société. Vous savez, petit à petit, aujourd'hui, plus personne n'est pour la peine de mort. Et aujourd'hui, aucun candidat à la présidentielle de 2022 proposera de revenir sur le mariage pour tous. Donc il y a un moment, en fait, les mouvements de société emportent tout sur leur passage. Et évidemment que la question environnementale est là. Mais la question environnementale, elle n'est pas dissociable de la question sociale. Et là, on a vu ce que faisait Emmanuel Macron, la casse des retraites, la casse des assédiques et du chômage, la casse des contrats aidés, c'est 400 000 contrats aidés qui ont été cassés dans les quartiers populaires, c'est tout cela, l'attaque sur le logement social, tout cela c'est concret, le reste c'est pas très concret.
Sur des mesures, moratoire sur les nouvelles zones commerciales, bon,
super. Si c'est fait, super.
Si c'est fait, super. Donc, comme quoi, il y a des points qui peuvent être
Les points de la Convention, j'ai rencontré hier les membres de la Convention, les trois femmes iséroises qui faisaient partie de la Convention. Ce travail est extraordinaire. On tire au sort des gens, on leur donne des moyens de travailler et ils reviennent quelques mois plus tard avec finalement une conviction très largement partagée que l'écologie est au centre maintenant de notre vie quotidienne, parce que ça touche notre vie quotidienne.
Donc sur la méthode, s'il y a des conventions citoyennes aujourd'hui et demain jusqu'à la fin du quinquennat, visiblement c'est ce que veut Emmanuel
favorable.
Macron, vous dites
j'y suis favorable, et d'ailleurs à Grenoble nous allons mettre en place également la même chose, donc j'y suis favorable, ça montre, c'est pertinent, hein. On tire des gens au sort qui représentent la société française, ils travaillent ensemble, ils arrivent avec un travail qui est consensuel, qui montre juste que les Françaises et les Français sont prêts en fait, à aller plus loin.
Mais ça veut dire que pour vous, encore une fois, Emmanuel Macron a fait cette convention, mais qu'il n'en tirera aucune leçon. Vous ne lui faites en rien confiance sur ce qu'il vient de nous dire cette semaine.
Parce que je regarde les actes. Parce qu'il dit, touchez pas à l'argent. Les 4%, la taxe sur les dividendes, non, s'il vous plaît, touchez pas à l'argent. Et puis après, le référendum, on dit, bon, on va le placer en 2021. Fin 2021, c'est-à-dire en plein pendant sa campagne présidentielle.
Donc, vous ne faites pas confiance au Parlement. Il confie maintenant ces mesures-là au Parlement. Donc vous ne faites pas confiance à nos représentants et au débat démocratique qui va se poursuivre.
J'ai toute confiance dans le débat démocratique, mais comme le disait Laurence Soubiana lundi, et ben, en fait, c'est maintenant. La Convention de Paris, c'est de la COP21, c'était en 2015. Donc c'est maintenant qu'il faut agir là et pas repousser ces référendums à la fin 2021 et ne pas enlever petit à petit, parce qu'on a fait, il y a un moratoire sur la 5G aussi.
On va y venir.
24 heures plus tard, Agnès... j'ai oublié son
nom,
excusez-moi, la secrétaire d'État, dit « si, bien sûr, les enchères vont avoir lieu en septembre ».
Mais alors, juste
pour, Bruno Le Maire dit « la pub, non, on ne va pas freiner la pub ».
Juste, puisque vous parlez de la 5G, vous êtes, vous, pour un moratoire sur la 5G ?
Aujourd'hui, la 5G est cette espèce de fuite technoscientiste pour finalement qu'on sait qu'aujourd'hui le numérique consomme 4% émet 4% des gaz à effet de serre. Il est prévu que ça double d'ici 5 ans pour que vous puissiez savoir combien vous avez de yaourts dans votre frigidaire. En attendant, en France, il y a plein de gens aujourd'hui qui n'ont pas accès à Internet. Qui n'ont pas accès à Internet, qui sont dans des zones blanches. La priorité pour moi, c'est est-ce qu'on doit passer à une nouvelle techno qui va consommer encore plus d'énergie, qu'on connecte notre grille-pain, notre frigidaire, ou est-ce qu'il faut donner Internet à toutes et tous, parce qu'on sait qu'on ne peut pas vivre, nous ne pouvons pas vivre aujourd'hui en France sans Internet, sans le numérique. C'est ça l'enjeu central.
Est-ce que vous n'êtes pas dans un double discours, Éric Piolle, puisque le Canard Enchaîné a révélé qu'il y avait des expérimentations de 5G sur votre commune à Grenoble?
Bah oui, sans notre consultation. On s'est offusqué de ça, comme à Bordeaux, sans notre consultation.
Donc on l'a fait, l'État l'a fait contre votre volonté.
Dans notre dos. Donc c'est pas contre notre volonté, c'est dans notre dos. On l'a découvert.
Mais le déploiement de la 5G, pour vous, peut pas être compatible justement avec la fin des zones blanches. Pourquoi ?
Ah ben non, aujourd'hui, là, on est en train de mettre
l'argent en parallèle.
Ben, en fait, aujourd'hui, ce n'est pas ça qui est fait. Aujourd'hui, on monte des territoires urbains toujours plus en techno, qui vont connecter plein de trucs totalement inutiles pour notre vie quotidienne, et on laisse en fait, plein de territoires qui n'ont pas accès au numérique, ce qui fait que, à la fois, les gens n'ont pas accès à tous les services qu'il peut y avoir sur le numérique, mais qu'on ne peut pas être architecte ou entrepreneur nécessitant des plans et travailler dans une zone blanche. Ça ne marche pas.
Mais est-ce que vous ne craignez pas, en nous disant ça, d'incarner cette écologie anti-progrès, Éric Piolle ?
Je ne sais pas, moi. Est-ce que le progrès, c'est de pouvoir regarder des films porno en HD ? Mais un quart des vidéos, vous savez que
ça, c'est votre avis, mais...
Non, mais dans les émissions de gaz à effet de serre du numérique...
Il y a des dessins animés pour les enfants, non, mais parce que...
Oui, mais il faut regarder un petit peu les grosses masses. 4% d'émissions de gaz à effet de serre, ça va doubler en 8 ans. Aujourd'hui, la moitié de ces 4%, c'est le flux, c'est le streaming. Et un quart des vidéos qui sont regardées, c'est des vidéos porno. Donc en fait, on pourrait résumer, évidemment, je fais un petit raccourci légèrement provocateur, parce que j'aime bien ça. Mais grosso modo, la 5G, c'est pour nous permettre de regarder des films porno, même quand vous êtes dans votre ascenseur en HD.
Bon. Ben, on s'en souviendra, ça marquera le grand jury, Marion Mourgue.
Concrètement, parce que le grand public vous connaît peu, concrètement, c'est quoi l'écologie façon Éric Piolle au moment où justement il y a cette vague verte qui s'installe dans le pays ?
Ce que je me suis lancé très tard, je me suis investi très tard en politique. Je suis un cadre de l'industrie, j'étais cadre dirigeant dans l'industrie, j'ai travaillé 18 ans dans l'industrie. Et si je me suis engagé il y a 10 ans de cela, à 37 ans, donc effectivement sur le tard, c'est que j'ai une conviction, c'est que nous devons donner un débouché politique à ce que je sens être une majorité culturelle. Cette majorité culturelle, c'est quoi ? C'est ceux qui veulent des vies authentiques et qui ne veulent pas des vies marchandisées. Et donc notre écologie aujourd'hui, elle s'appuie sur trois objectifs très simples. Comment nous pouvons garantir des sécurités du quotidien, la mobilité, le logement, l'alimentation, qui sont au cœur à la fois de la transition écolo et au cœur de notre pouvoir d'achat, au cœur de nos vies quotidiennes. comment on chérit les biens communs et le vivant, hein, et puis comment on continue à entretenir ce désir de sens, à nourrir ce désir de sens, pour qu'on ne soit pas résumé à un homo economicus qu'il faudrait stimuler.
Justement, pas résumé à des mesures, disons, sectaires. Amélie Carouère.
Bon, on prend des points pragmatiques, on était sur la Convention citoyenne, restons-y un peu. Et il y avait cette idée de baisser à 110 km/h la vitesse sur l'autoroute. Ça parle aux gens, c'est leur quotidien. Yannick Jadot, au grand jury, justement, avait dit « Moi, j'avoue que quand je suis à 120 km/h sur l'autoroute, je m'emmerde un peu. » Et vous, c'est une manière, bien sûr, nous aussi un peu provoque, de vous demander si vous êtes pour ce genre de mesure.
Il se trouve que sur le 110 ou le 130, j'ai pas d'avis arrêté parce que je ne sais pas combien ça fait économiser d'énergie. C'est ça la question. Ce qu'on voit, c'est que l'évolution, on a aidé la filière automobile de façon massive après 2008. On en sort 10 ans plus tard avec quoi ? On se promène tous, nos 70 kilos, dans des SUV d'une tonne 5, qui représentent maintenant, on vendait il y a 10 ans 70 millions d'automobiles, maintenant on en vend 100 millions par an, donc on a augmenté de 30 millions, et un quart de cela, c'est des SUV. Donc la logique générale, c'est de se dire que notre mobilité, il faut la repenser, quel est mon besoin ? Comment j'y réponds en faisant de la marche à pied, en faisant du vélo, en faisant du transport en commun, en faisant de l'autopartage également.
Vous avez une voiture, vous, Éric Piolle, ou pas ?
Non, j'ai vendu ma voiture. Pourtant, j'ai 4 enfants, j'adore la montagne, le camping.
Et alors, vous déplacez comment quand vous devez aller à la montagne, par exemple ?
Eh bien, j'emprunte une voiture, je loue une voiture, des voitures d'autopartage.
Oui.
Et en fait, ça répond à mon besoin. Et l'été, quand on part grimper partout et qu'on fait du camping, eh bien, on loue une voiture de 9 places parce qu'on est nombreux. Et puis, quand on part juste comme ça à deux en montagne pour un week-end ou qu'on va voir des copains ou la semaine dernière, un récital d'une de mes filles de musique, eh ben on embarque la voiture avec le nombre de personnes qu'il y a dedans. Et mais ça loue et ça me coûte moins cher.
Et ça vous coûte,
ça coûte moins cher.
Et sur les 110 km/h, non, est-ce que vous pensez qu'elle aurait dû être maintenue dans les mesures ?
Je n'ai pas d'avis sur la question, en fait, je ne connais pas le dossier, je ne peux pas vous répondre là-dessus. Je sais que le 80 km/h a fait économiser beaucoup, beaucoup de vie.
Donc vous y êtes favorable.
Le 80 km/h, j'y suis largement favorable et je pense que c'est une bonne mesure qu'a pris ce gouvernement. Le 110, je ne sais pas, je n'ai pas regardé quel était le nombre de morts sur autoroute, il me semble que c'est relativement faible. Et qu'est-ce que ça peut gagner en énergie, évidemment. Mais le message général, c'est qu'aujourd'hui, nous devons nous déplacer selon nos moyens. Ça ne marche plus de relancer le Paris-Bordeaux en avion alors qu'on peut le faire en 2 heures en train. Ça n'a pas de sens.
Vous êtes pour supprimer des lignes, pour vous ?
Ah oui, oui. Je suis extrêmement favorable à cette logique qui est de dire que là où on a le train, finalement, amène une solution qui, à peu de choses près, niveau temps, est équivalente, il faut évidemment ne pas développer de lignes d'avion, interdire ces lignes d'avion.
Mais vous pourriez assumer des mesures qui ne sont pas forcément populaires, in fine, c'est ça, parce que descendre à 110 km/h, ça ne plaît pas forcément aux gens, comme ça n'a pas plu les 80 km/h. On a vu ce que ça a donné avec les gilets jaunes. On parlera après de la taxe carbone. Et vous vous dites, bon, après tout, le temps long me donnera raison, je suis prêt à assumer une forme de contestation si je devais faire ce genre de choses.
C'est plutôt de la conduite du changement plutôt que de la contestation. On est tous résistants au changement, moi compris. Vous m'auriez dit il y a 10 ans que j'allais lâcher ma voiture avec ma structure familiale, mes 4 enfants, mon épouse, on est 6. Je vous aurais dit non, pas possible. En fait, j'en ai besoin. Je vais vous expliquer toutes les raisons pour lesquelles j'en ai besoin. Je l'ai fait et en fait, ça marche très bien. Et on est tous résistants au changement. Donc, il faut nous donner cette chance-là. Et parfois, il y a des ruptures. Effectivement, arrêter de prendre l'avion pour tout n'importe quoi, c'est une rupture. Le trafic aérien augmente de 7%. Là, il y a le problème du Covid qui est très particulier. Sinon, augmente de 7% par an, ça veut dire que ça double tous les 10 ans. Moi, j'ai fait partie de ceux, en travaillant, qui prenaient l'avion pour aller à l'autre bout de l'Europe pour une réunion de 2 heures et revenaient le soir. Et mes copains qui sont dans l'industrie, ils continuent ça. Ils font des vols transatlantiques pour une réunion de 3 heures et retour.
Donc ça,
est-ce que ça a du sens ?
Est-ce qu'il faut aller plus loin ? Est-ce qu'il faut interdire les billets d'avion à 40 euros comme l'Autriche vient de le faire ?
Ça me semble pertinent. Le coût, l'externalité négative, c'est-à-dire la pollution du kérosène qui est sponsorisée toujours, hein, il faut le rappeler, il y a une énorme défiscalisation sur le kérosène, effectivement ça n'a pas de sens. Si c'est quelque chose que nous voulons réduire, il faut aussi, ou en tout cas arrêter l'augmentation déjà, hein, ne serait-ce que ça, arrêter l'augmentation incroyable de l'avion, et il faut qu'on prenne les mesures qui soient cohérentes avec cela.
Mais en même temps ça veut dire moins d'emplois dans l'aéronautique, vous en êtes conscient, c'est-à-dire que là Air France va licencier, Airbus va licencier. Qu'est-ce que vous dites aujourd'hui à ceux qui vous écoutent et qui vont perdre leur emploi parce que la filière aéronautique n'a plus d'avenir, ou en tous les cas, dans vos ambitions ?
Elle n'a plus d'avenir. Pour l'instant, elle se développe à grands pas.
Mais si on suit vos préconisations...
Je vais faire en deux parties, si vous le voulez bien. D'abord, dans cette filière aviation aéronautique, on a perdu 5 000 emplois entre 2010 et 2015. Donc, malgré l'explosion du trafic, on a perdu des emplois en France. Ensuite, je pense qu'il faut arrêter de mentir aux gens. On a menti aux ouvriers qui travaillaient dans les mines de charbon en leur disant « la casse sociale est insupportable, on va vous accompagner ». Non, ils ont disparu. On a menti aux ouvriers de la sidérurgie pour, en leur disant « on va continuer les hauts fourneaux en France ». On leur a menti. On a menti aux ouvriers du textile en leur disant « l'entrée de la Chine dans l'OMC et la fin des quotas, ben, vous allez réussir à développer un textile français ». Non, on a menti. Le textile français, il commence à peine à émerger aujourd'hui et j'en suis un grand partisan. Donc il faut juste arrêter de mentir aux gens et se dire que la question, c'est quelle justice sociale, quel accompagnement dans ces transitions. On a perdu 3 millions d'agriculteurs en l'espace de 40 ans. On en perd tous les ans, nous perdons entre 5 et 10 000 agriculteurs. Mais c'est un plan social à bas bruit. Pourquoi ? Parce que ben, finalement, il lâche un par un.
Alors, mais quand même, vous dites, est-ce que vous êtes jusqu'à dire le gouvernement aide des entreprises comme Air France, puisque nous parlons toujours d'aéronautique, faut-il interdire le licenciement quand le gouvernement vient à la rescousse d'entreprises ?
Il faut mettre des conditions.
Quelles conditions ?
Il faut mettre des conditions de transition énergétique, des conditions sociales. On ne peut pas arroser comme ça d'argent public des sociétés qui finalement derrière prennent l'argent comme en 2008. Hein, ils prennent l'argent puis après ils disent bon ben salut les amis. Et puis ceux qui touchent cet argent public, ce n'est pas les PME qui sont à côté de chez nous, ce n'est pas votre commerçant de proximité. Lui, il va toucher une aide de 1 500 euros. Ceux qui touchent, qui captent l'essentiel de ces milliards, c'est des grandes multinationales qui aujourd'hui ne représentent pas, représentent une toute petite partie de l'emploi en France.
Est-ce que c'est indécent pour vous ce qui est en train de se passer ? Est-ce que, comme Julien Bayou, vous dites que nos impôts servent à subventionner quasiment ces licenciements ?
Oui, Julien Bayou, c'est le national d'Europe Écologie.
Et y compris servent à subventionner des salaires indécents. Ces salaires de patron, moi j'ai été dans des grands groupes américains, l'envolée des salaires est absolument scandaleuse. Rockefeller disait dans les années 20 qu'il ne voulait pas prêter à une entreprise dans laquelle il y avait un écart de plus de 1 à 20 de salaire.
Vous reprenez cette demande, c'est ce que demandent les insoumis et Jean-Luc Mélenchon.
Il y a une espèce de cupidité. Vous savez, que fait Roosevelt quand il arrive au pouvoir en 1933 pour redresser le pays ? Il met un impôt marginal à 90% qui dit en fait, les amis, arrêtez cette cupidité qui vous entraîne à ces plus riches, c'est 1% qui cherche à se mettre à l'abri. Arrêtez le fait qu'on ait maintenant de plus en plus de milliardaires et qu'ils détiennent 50% du patrimoine de l'humanité n'améliore pas nos conditions de vie.
Mais
c'est pas vrai.
Vous savez ce qu'on rétorque à cela, c'est-à-dire que si vous faites un écart de 1 à 20, eh bien vous avez beaucoup de dirigeants qui ne viendront plus en France, des cadres, de hauts cadres, qui iront dans d'autres pays.
C'est quoi leur vie ? C'est quoi le sens de leur vie ? À la fin de leur vie, quand ils seront là sur leur lit de mort, j'espère entourés de leurs proches, ils diront « j'ai fait une bonne vie, j'ai bien amassé de l'argent ». C'est ça, nos vies ?
Donc c'est une question de sens, vous les appelez à la
moralité. Moi, c'est une question de sens. Je me suis engagé en politique parce que c'est la question du sens. J'ai envie de remettre de la spiritualité dans le politique. On ne peut pas juste se cantonner à des mesures économiques. Je ne suis pas un homo economicus. Ma vie n'est pas une compétition. Je n'ai pas envie de me dire, je suis plutôt compétiteur. Hein. Si vous me mettez sur un terrain de sport avec une balle, un ballon, effectivement, je vais y aller à fond. Mais dans ma vie, je ne suis pas un compétiteur. Ce n'est pas un classement des gens de l'humanité. Quoi. Et encore moins, c'est ce qu'ils avaient fait en matière d'argent. Quoi.
Vous parliez de changement d'habitude, de changement de comportement. Est-ce que sur le nucléaire, il faut aller plus loin que ce qui est fait aujourd'hui ? Est-ce qu'il faut carrément interdire le nucléaire ? Vous êtes pour ?
Le débat est tranché, en fait, en France. La question est dépassée. Nous avons voté dans la loi de transition énergétique en 2015 le fait que nous voulions réduire la part du nucléaire.
Oui, mais est-ce qu'il faut aller plus vite dans le calendrier ?
Pour l'instant, ça ne bouge pas. On peut se réjouir. Là, pour la première fois,
on a eu Fessenheim
qui a été arrêté. Donc, effectivement, il faut reprendre cette trajectoire de réduction de la part du nucléaire dans notre parc énergétique. Et puis, il faut investir aussi dans le nucléaire parce qu'on ne sait pas comment démanteler une centrale. À côté de Grenoble, on continue de démanteler Superphénix. Ça a été arrêté en 1997. On ne sait toujours pas comment démanteler une centrale. Les risques pour notre sécurité sont de plus en plus grands. Moi, je vis dans la Réunion, la région la plus nucléaire de France. C'est un risque objectif. On a testé là pour la distribution de masques. Nous avons testé une distribution filtrée, c'est-à-dire identifiée à chacun des habitants de masques, non pas pour donner à chaque masque à chaque habitant en disant je vérifie bien que tu as droit, mais parce que je me dis qu'il faut qu'on s'entraîne aussi. Il faut s'entraîner à distribuer des pastilles d'iode, il faut s'entraîner face à l'incertitude.
Comme c'est le cas dans la Manche, par exemple. Comme c'est le cas dans la Manche.
Quand c'est le cas dans la Manche, je crois que nous devons nous entraîner à cela. La sécurité nucléaire devient de plus en plus fragile, notamment avec le vieillissement, et nous devons investir de la matière grise pour contrôler ces centrales qui sont de plus en plus anciennes et pour les maîtriser.
La fermeture de Fessenheim, c'était là. Et puis on a vu aussi des salariés et des emplois qui sont indirects. On a vu des villages, des commerçants dire aussi leur désespoir de la situation. Pour aujourd'hui et pour demain, avec ce type de changement, vous dites quoi à ceux qui vont souffrir aussi de ces situations, perdre leur travail, leur commerce?
C'est là que toute la question de la justice sociale entre en jeu, c'est là que l'accompagnement entre en jeu. Et c'est là que des questions centrales, celles qu'on a vécues avec la sidérurgie ou les mines de charbon, finalement, ne pas refaire pareil et ne pas envoyer tous ces gens dans le désespoir le plus total, avec un autre désespoir, qui pour moi est tout aussi important. C'est que le message qu'on leur envoie, c'est que leur activité était nuisible. C'est ça, en fait, le drame qu'ils viennent porter aussi. Ils sont investis dedans, ils y ont mis leur cœur, ils y ont mis leurs compétences, et puis on leur dit, non, en fait, vous êtes une nuisance pour la société. C'est ce discours-là qu'il faut changer. Mais parce qu'ils peuvent être fiers de ce qu'ils ont fait, et aujourd'hui, reconnaître la fierté de ce qu'ils ont fait, et leur dire que pour demain, en fait, on va développer une nouvelle fierté et faire des activités économiques qui aient du sens pour nous, dans la réhabilitation thermique des bâtiments, dans l'alimentation et l'agriculture bio, dans l'accompagnement des personnes âgées, dans des nouvelles technologies qui seront utiles cette fois-ci.
Vous arrivez au pouvoir en 2022, imaginons que les Verts arrivent au pouvoir en 2022, à quand la fin du nucléaire en France ? Si vous arrivez en 2022.
Il faudra définir une trajectoire. Elle avait été définie, vous savez qu'elle a été reculée de 5 ans par Nicolas Hulot. Il faut faire un plan là-dessus, en faisant attention que EDF aujourd'hui, si Flamanville, si leur centrale en Angleterre, en fait, vacille, et pour l'instant ça vacille complètement, en fait, on a un risque de faillite et il ne faudrait pas qu'on perde.
Mais vous ne me donnez pas de date, Éric Piolle. Est-ce que c'est 2040, 2005, c'est 2005?
Ah non, ça sera, je pense qu'il faudra sortir, je pense, plus vite que cela, parce que c'est un enjeu fort.
Plus vite que 2040 pour la fin
aujourd'hui, si on trace une pente, 2040, c'est déjà tard. Et ça freine, ce que je veux dire aussi, c'est que ça freine aujourd'hui le développement des énergies renouvelables. C'est-à-dire que la puissance nucléaire en France freine. Pourquoi on est en retard sur l'Allemagne sur les énergies renouvelables? Parce qu'effectivement, ici, il y a un lobby, il faut le reconnaître, qui freine le développement des énergies renouvelables.
Vous dites qu'on est en retard. Pour aller plus loin, pour vous, la méthode, c'est quoi? C'est de la radicalité, c'est-à-dire que c'est de pousser tout le monde à accepter une situation qui est imposée, ou au contraire, c'est de la concertation pour essayer de mettre tout le monde autour de la table? C'est quoi?
Alors, ce que j'aime dans la radicalité, moi, je me définis comme radical et pragmatique. Radical, pourquoi? Parce qu'on va chercher à la racine. Et c'est pour ça que la justice sociale et la lutte contre le dérèglement climatique sont indissociables. C'est le même moteur qui exploite aujourd'hui la planète et qui crée des inégalités entre les femmes et les hommes dans notre pays, comme partout dans le monde. Donc je suis radical. Allons chercher à la racine des solutions qui sont bonnes pour tout de suite et bonnes pour le long terme. Ça, c'est fondamental. Et pragmatique, parce que tout ce qu'on fait doit marcher. Voilà. Et de temps en temps, on fait des ruptures. Il y a plein de moments où on fait des petits pas. Il y a une acculturation collective. On évolue, on l'a bien senti pendant le Covid. L'intérêt pour l'alimentation locale a augmenté fortement. L'élan pour la nature. On s'est rappelé qu'on était des animaux et qu'enfermés dans un appartement, en fait, vite, ça devient crispant. Donc on s'est rappelé de tout ça. Mais derrière, il faut faire des choses.
Radicalité, justement avant la pause.
Est-ce que vous êtes décroissant?
Non, je ne suis pas décroissant, je suis agnostique en matière de croissance. C'est une religion, la croissance. Depuis 40 ans, ça a été une vraie promesse après-guerre, progrès social et économique. Depuis maintenant 45 ans, c'est devenu une religion. Ça s'est déconnecté notre bien commun. Est-ce qu'on améliore nos conditions de vie? Ça n'est plus le cas. Donc être croissant ou décroissant, finalement, ça fait partie de la même religion. Moi, je regarde qu'est-ce que j'ai envie de développer comme activité. Réhabilitation thermique des bâtiments, oui. Investissement dans la santé, oui. Investissement dans la santé environnementale et pas que dans la santé curative, oui.
Mais ça veut dire que vous félicitez, on vous annonce 8% de croissance en 2021, rattrapage de...
Ce chiffre n'a pas de sens, en fait. Ce chiffre n'a pas de sens parce qu'il ne dit plus, aujourd'hui, si nous vivons mieux ou pas. Dans les années 80, on nous a dit, pour sortir de la crise, il faut 4% de croissance. Bon, ça ne marchait pas, la croissance se casse la gueule depuis 40 ans. Systématiquement, chaque décennie, vous regardez, on est de plus en plus bas. Après, on nous a dit 2,5%. Après, on nous a dit 1,5%. Maintenant, quand il y en a un qui fait 1% de croissance, il fait le tour avec la serviette sur la tête.
Croissance ou décroissance, peu importe, Éric Piolle.
Oui, je suis agnostique, ce que je vous dis.
Ah, vous êtes agnostique. En fait,
okay. Moi, je regarde. Bon, ce que je dis, c'est que cet indicateur qui a été créé, qui était pertinent en 45, ne l'est plus. Et donc, revenons aux fondamentaux dessous. Regardons à ce qui nous intéresse, nos vies quotidiennes.
On poursuit cette conversation après une pause. On parlera, bien sûr, de 2022. À tout de suite.
Les infos en boucle.
Si on mettait sur pause.
Pour s'informer aussi des nouvelles tendances.
Les transports en commun.
On fait la pause.
Et on se laisse transporter par une paire de sandales.
Et le mauvais temps, on met aussi sur pause.
On reste au beau fixe, le temps d'une livraison rapide.
Sarenza.com.
En cas d'envie, aujourd'hui, c'est summer party. Jusqu'à moins 50% sur une sélection de chaussures et de vêtements. Fête d'été, voire conditions sur le site.
Et vous, qu'attendez-vous pour aller chez Renault?
En ce moment, profitez d'offres exceptionnelles, comme nouvelle Renault Clio à partir de 99€ par mois seulement et avec EasyPack, soit l'entretien, la garantie et l'assistance inclus pendant 4 ans. L'idéal pour profiter de l'été en toute sérénité.
Pour nouvelle Clio Life SE 65, 40 000 km avec un premier loyer de 3 000€ ramené à 0€ après déduction de la prime à la conversion, sous condition d'éligibilité à la prime jusqu'au 31 juillet si accordiaque. Voir Renault.fr.
À partir de demain,
c'est le grand jeu RTL de l'été. À gagner
des smartphones dernière génération, des semaines de vacances en famille, VVF Village, des chèques de 1 000€, des TV Ultra HD, des enceintes connectées, des montres connectées.
Pour jouer, inscrivez-vous dès maintenant au 3210.
50 centimes la minute.
Ou en envoyant
RTL
au 74 900.
75 centimes par SMS, 4 SMS maximum.
Alors rendez-vous demain à 8h50 pour le grand jeu RTL de l'été.
RTL, il est midi et demi. Un point sur l'actualité avec vous, Thomas Dulin. Bonjour Thomas.
Bonjour Benjamin, bonjour à tous. Le nouveau gouvernement annoncé demain matin, probablement les mots de Richard Ferrand, le président de l'Assemblée nationale. En attendant, le nouveau Premier ministre dévoile ses priorités dans un entretien au JDD. Jean Castex dit vouloir régler à court terme le dossier des retraites, conclure le Ségur de la Santé la semaine prochaine. Il rencontrera demain à Matignon les parlementaires de la majorité. Édouard Philippe, écharpe tricolore en bandoulière, redevient maire du Havre, élu sans surprise ce matin à la tête de la ville normande, un poste qu'il a occupé pendant 7 ans entre 2010 et 2017 avant d'être nommé Premier ministre. Un contrôle routier a viré au drame hier soir près d'Agen. Un gendarme de 26 ans a perdu la vie après avoir été percuté par un automobiliste qui refusait d'obtempérer. L'homme est en garde à vue. La fresque réalisée à Stein en Seine-Saint-Denis en hommage à George Floyd et Adama Traoré vandalisée la nuit dernière. Les mots extorsion, vol ou encore stop au Traoré ont été écrits à la peinture blanche et rouge sur les visages des deux hommes. Cette réalisation faisait l'objet d'une polémique avec le texte inscrit auparavant contre le racisme et les violences policières. Dans un instant, la suite du grand jury LCI Le Figaro.
Peugeot Pro présente « Les affaires reprennent ».
Avec nous aujourd'hui, Sylvain, peintre en bâtiment, pour qui les affaires reprennent fort. Il doit être partout à la fois. Ça tombe bien, car il est au volant de son nouvel utilitaire Peugeot Expert. Et oui, il a bénéficié d'une offre exceptionnelle sur le Peugeot Expert avec aide au stationnement arrière dès 229€ hors taxes par mois, sans apport. En plus, Sylvain ne paiera rien pendant 3 mois. De quoi donner de l'air à sa trésorerie.
Crédit bail 60 mois, 50 000 km, acceptation par crédit par, détails sur professionnel.peugeot.fr.
Bonjour, c'est Bernard de la Villardière. La crise sanitaire n'a pas mis un terme au terrible drame des réfugiés en Méditerranée. En ce début d'été, ils sont des centaines à prendre la mer chaque jour pour rejoindre l'Europe, au péril de leur vie. Nous avons pu embarquer exceptionnellement à bord de l'Ocean Viking, qui a repris ses activités de sauvetage. Méditerranée, le nouveau cimetière des réfugiés, c'est dans Enquête exclusive, ce soir à 23h10 sur M6.
Lidl, meilleure chaîne de magasins de l'année, catégorie fruits et légumes.
Ah le patron, ils ont vraiment la grosse tête ici.
Chez Lidl? Comment ça?
Eh ben le melon quoi. Dès demain, ils font le melon charentais à 1,29€.
1,29€ le melon charentais, chez Lidl.
Et origine France, et c'est le même prix partout, même pendant les vacances.
Lidl, le vrai prix des bonnes choses. Catégorie 1, calibre 800-950 grammes, charentais jaune et ouvert, origine France. Nos 1550 supermarchés de proximité sont rigoureusement équipés pour garantir des conditions sanitaires optimales pendant vos courses. Plus d'informations sur Lidl.fr.
Sur l'énergie, on va...
Suite du grand jury RTL Le Figaro LCI. Invité aujourd'hui, le maire Europe Écologie Les Verts de Grenoble, Éric Piolle. Le débat est dirigé par Benjamin Sportouche.
Avec à mes côtés Marion Mourgue du Figaro et Amélie Carouer de TF1 LCI qui vous pose la première question de cette seconde partie. Ou pardon, non, c'est Marion Mourgue.
Vous prenez des solutions radicales. Alors est-ce que sur le temps de travail, il faut passer carrément aux 28 heures, aux 32 heures et puis mettre fin aux 35 heures officiellement?
J'étais, dans les années 90, un de ceux qui a lancé humblement le débat sur la semaine de 4 jours. Pourquoi ? Nous avons aujourd'hui en France 8 millions de chômeurs. Il y a les 6,5 millions d'inscrits à Pôle emploi. Vous pouvez rajouter là 1 million de personnes qui sont au RSA Socle sans être inscrits à Pôle emploi et autant de jeunes inscrits dans les missions locales et qui ne sont pas inscrits à Pôle emploi. Si vous regardez la population active aujourd'hui en France, c'est à peu près 30 millions. 29,8 millions. Vous enlevez à cela ces 6,5 millions d'inscrits à Pôle emploi, vous enlevez les professions libérales, vous enlevez les 5 millions de fonctionnaires, un peu plus, vous arrivez à 15 millions de salariés du privé aujourd'hui qui ne sont pas inscrits à Pôle emploi. Vous avez d'un côté 8 millions de personnes qui cherchent du travail et de l'autre, là on veut les faire rentrer, 15 millions de personnes qui ne sont pas en recherche de travail. Donc c'est 30% de notre taux de chômage réel.
Mais 28 en fait. Heures pour vous,
donc il nous faut regarder la question de comment on organise, qu'est-ce qu'on produit, évidemment, hein, et comment on organise cette production, c'est central. Là où on a des gisements d'emploi, on le sait, hein, sur l'isolation des bâtiments, sur une agriculture où on peut retrouver de nouveaux agriculteurs au lieu d'en perdre chaque année, sur l'accompagnement des seniors et du grand âge qui va être majeur, sur des actions de prévention, sur de l'économie du recyclage, sur une économie territorialisée. On est en train aujourd'hui d'avoir un débat sur le Lyon-Turin. Le Lyon-Turin, la promesse du Lyon-Turin, c'est nous allons doubler les échanges entre la France et l'Italie. Est-ce que vraiment on veut investir 30 milliards d'euros pour doubler les échanges entre la France et l'Italie pour s'envoyer des tomates les uns les autres ou s'envoyer des cochons? Voilà, on leur envoie leurs cochons, ils nous envoient leurs cochons. Quelle est la valeur ajoutée pour notre humanité? Moi, quand j'achète des fruits et légumes, j'ai envie de connaître le maraîcher qui les a produits. Et quand j'achète un agneau, ben, je suis content d'aller l'acheter chez l'éleveur que je connais, que je rencontre. Donc cette relocalisation de l'économie, elle est centrale. Et puis l'organisation du travail, évidemment, elle est centrale.
Vous savez qui parle de localisme?
Tout le monde.
C'est le terme utilisé par Marine Le Pen, le localisme. Est-ce que vous reprenez cette notion?
Moi, je suis plutôt à la fois, je me sens très grenoblois, mais j'ai gardé mes racines basco-béarnaises, je me sens extrêmement français, je me sens extrêmement européen. Donc il y a, aujourd'hui, je me sens multiple et habitant du monde, et je suis très heureux comme ça. Par contre, les relations, hein, évidemment, quand je vais chercher quelque chose que je n'ai pas, il faut que j'aille chercher à l'autre bout du monde, ça a du sens. Si c'est pour aller chercher des tomates espagnoles...
Dites-nous concrètement, l'avocat, c'est à chaque fois le légume dont on nous parle, vous dites on doit s'en passer parce que
On peut en avoir de temps en temps, mais on va pas manger des avocats tous les jours.
On n'en fait pas venir des pays d'Amérique latine.
On va pas les faire pousser à Grenoble, hein, les
mais,
avocats.
Quand
c'est quelque chose qui a du sens, on va pas en manger tous les jours. Voilà, ce qui est important aujourd'hui, c'est de retrouver une activité qui a du sens. Si vous mangez une alimentation de saison, vous aurez moins de risques d'être obèse, moins de maladies. Ce sera peut-être mauvais pour la croissance, parce que les maladies, c'est bon pour la croissance du PIB. Mais par contre, ce sera mieux pour notre vie à tous. Et en plus, on sera content, parce que l'alimentation, c'est quelque chose qui nous unit. Voilà, on est attaché en France à une alimentation, à une gastronomie, qui est aussi un moment de partage.
On apprend à vous connaître. Ouais. La question des retraites, c'est toujours un bon point pour essayer de connaître notre interlocuteur. On a bien compris que ce n'était pas votre truc et surtout une reprise des concertations dès l'été prochain, comme le veut le nouveau Premier ministre. Mais la question des déficits, 30 milliards de déficits du système, c'est ce qui vient de tomber. La question même de la dette d'une manière plus générale, pour vous, c'est un non-sujet, un sujet secondaire. Comment on affronte ça?
Ce qui me fait sourire, en fait, là-dedans, mais sourire, c'est un sourire, je ris jaune, hein, c'est qu'on utilise cela pour mettre une pression aujourd'hui sur nos vies. Voilà. On nous a dit jamais la dette du PIB à plus de 60%, sinon on va tous mourir. Bon, mais après on nous a dit jamais plus de 100%. Et là, on est en train d'exploser la dette, on va la passer à 130 ou 140%. Ils reculent la barrière et puis ils vont nous remettre la pression là-dessus. La question de la retraite, c'est quoi? C'est finalement la question de comment on répartit ce que nous avons besoin de produire, les biens et services. Comment on se les répartit déjà entre nous, comment on va chercher des nouvelles activités dont nous avons besoin. Aujourd'hui, l'allongement de la durée de la retraite, le seul truc que ça fait, c'est que ça va faire des vieux pauvres. Et d'ailleurs, c'est ce qu'on voit. Jusqu'à il n'y a pas longtemps, les seniors étaient plutôt plus riches que la moyenne de la population. C'est en train de tourner sous l'effet des mesures des retraites. D'ailleurs, le taux d'activité des seniors augmente, mais il augmente en étant au chômage.
Mais quand même,
oui, voilà. De l'argent, du financement.
Ils viennent d'aligner des centaines de milliards d'euros, comme en 2008. On vient d'aligner des centaines de milliards d'euros. Et puis là, on nous dit, là, stop. C'était possible pour lutter contre le Covid, mais par contre, pour nos vies quotidiennes, ça ne marche pas. Moi, je suis pour une création monétaire par la Banque Centrale Européenne, qui fait qu'au lieu qu'on confie ça à des banques privées qui, derrière, ont des taux de profit absolument indécents, on reprenne cette gestion en public et que ça nous serve, en fait, à accentuer les transitions. Et Eric, après, notre question, c'est une question d'organisation du travail. Est-ce que je dois travailler jusqu'à 67 ans? Est-ce que je dois travailler moins toute l'année et plus longtemps? Est-ce que j'ai envie de... L'espérance de vie en bonne santé en France est en train de flageoler, voire de baisser?
Mais Éric Piolle, quand même, quand on vous entend, on se dit d'accord, la dette, mais cette dette, il faut, on la paiera plus. Et si jamais les taux d'intérêt,
si je peux me permettre, c'est pas les écologistes qui ont créé cette dette. Non, mais c'est des gouvernements de gauche et de droite. Et dans l'histoire de France, en fait, on n'a jamais connu de gouvernement qui soit de gauche, de droite, des écolos, il n'y en a jamais eu, qui ait remboursé sa dette.
Donc une dette perpétuelle, ce qu'on appelle la dette perpétuelle.
Aujourd'hui, en tout cas, c'est ce que nous proposent aujourd'hui nos gouvernants.
Mais c'est temporaire.
Depuis 40 ans.
Éric Piolle, vous savez très bien que c'est temporaire.
C'est quoi temporaire?
On nous dit qu'à un moment donné, il faudra rembourser cette dette. Vous nous dites,
dites-moi quand.
C'est cordon délié.
Dites-moi quand. En fait, c'est eux pour l'instant qui augmentent la dette. Si vous regardez l'histoire de la courbe de la dette en France, c'est la période Sarkozy-Balladur qui voit une première. Alors on peut dire, pas de chance, à chaque fois qu'ils arrivent, il y a une crise. Ou l'inverse, on ne sait pas qui est la poule et l'œuf, mais en tout cas...
Vous n'allez pas imputer le Covid.
Je dis ça en souriant. Mais ce que je note aujourd'hui, c'est que l'explosion de la dette, en pratique, a toujours eu lieu sous des gouvernements de droite, en réalité, et que le discours sur la rigueur budgétaire, en fait, c'est des mots.
Je relève juste que vous, à Grenoble, vous avez dû mettre en place un plan de sauvegarde des services publics, Éric Piolle, parce que vous n'aviez plus d'argent. Et vous avez fait un plan de sauvegarde. Vous avez fermé deux bibliothèques.
Je suis, effectivement, j'ai développé un plan lecture, surtout avec des bibliothèques gratuites. On a le réseau le plus dense de France et nos taux d'inscription aux bibliothèques ont largement augmenté. Donc c'est plutôt positif, un plan autour de la lecture du public, de regarder du fond. Mais par contre, effectivement, on ne peut pas se permettre aujourd'hui juste de faire des trucs n'importe comment et puis de ne pas regarder les contingences matérielles. Les contingences matérielles, ça se regarde. Et une collectivité, en plus, elle ne peut pas être en déficit.
Mais vous le regrettez, ça, Éric Piolle?
Par contre, j'aimerais bien changer les règles pour pouvoir investir, comme dans une entreprise privée. Si je suis entrepreneur privé aujourd'hui, j'ai un projet, je peux emprunter à la banque et je vais rembourser la banque avec ou bien les économies que je vais faire demain ou bien les nouvelles recettes. Si je suis acteur public aujourd'hui, je ne peux pas. Moi, je suis arrivé dans la politique en 2010. Et j'ai ouvert des grands yeux en disant mais comment c'est possible qu'en fait que l'acteur public ne soit pas en capacité de monter des projets avec des retours sur investissement et du coup on freine la réhabilitation des bâtiments, du coup on freine les investissements. On a développé, pour vous dire juste un truc, en 2022 nous serons en capacité de produire assez d'électricité pour produire donner aux grenobloises et grenoblois une électricité ni fossile ni nucléaire. C'est par un plan d'investissement de 120 millions d'euros dans notre société publique locale, dont nous sommes actionnaires majoritaires, GEG, la même d'ailleurs qui éclaire votre tour Eiffel quand elle scintille, c'est qu'on ne pédale plus assez vite. Nous fournissons aujourd'hui une énergie renouvelable verte à la tour Eiffel et nous allons fournir à l'ensemble des grenobloises et des grenoblois une énergie qui soit ni fossile ni nucléaire. C'est concret, c'est de l'investissement et ça je peux le faire uniquement parce que c'est une société dont nous sommes actionnaires collectivement, c'est un bien commun, mais que nous pouvons du coup appliquer les règles du privé. Je peux pas faire ça.
Je note quand même que vous dites équilibre financier dans les communes, pas forcément au niveau de l'État. C'est ce que vous nous dites.
En fait, la création monétaire au niveau européen, moi je voudrais que cette Banque Centrale Européenne, elle crée de l'argent et que ça parce qu'aujourd'hui, la création monétaire qu'on a créé l'euro, c'est 8% par an. On a enlevé ça des politiques en disant, vous n'êtes pas sérieux les gars, vous êtes en train de créer de la monnaie, ça va faire de l'inflation. On l'a donné au privé, en fait c'est 8% de création monétaire par an, c'est fou. On a créé 3000 milliards en 4 ans, là on a créé 3000 milliards d'euros, 30% de la masse monétaire. Pour quel résultat? Il est venu dans les politiques publiques? Non, en fait il est parti tout dans la spéculation, 90% dans la spéculation.
Vous déroulez quasiment un programme présidentiel. Est-ce que vous serez candidat, Éric Piolle, est-ce que vous l'envisagez en 2022?
Ça n'est pas le moment de cela. Moi, je travaille pour que cet arc humaniste, finalement, puisse trouver un débouché politique, que cette majorité culturelle puisse gagner en 2022. Et je suis au service de ce projet-là. C'est un projet collectif.
Mais quand Yannick Jadot dit dans le JDD aujourd'hui qu'il se prépare pour 2022, ça veut dire que vous pourriez le soutenir? Ou vous êtes plutôt pour votre propre...
Aujourd'hui, Yannick est quelqu'un d'important dans la famille écologiste. Donc, nous avons besoin de lui. Après lui, il veut être candidat, comme il l'a été en 2017, et moi, je veux que notre espace politique gagne. Alors, c'est deux stratégies un petit peu différentes, mais de toute façon, nous aurons besoin tous les uns des autres pour gagner en 2022.
Vous ne répondez pas très directement. Est-ce que vous êtes candidat
Peut-être
pour 2022
que j'ai pas envie de
répondre. Voilà, mais
c'est oui, totalement
anodin. Donc on compte sur votre franchise jusqu'au bout. Donc si vous voulez pas répondre, c'est que
l'heure n'est pas venue. Et il y a une éthique. Moi, j'ai une éthique. C'est d'être à la hauteur des événements qui vous font face. Je n'étais pas prévu. J'avais pas prévu dans ma vie de faire de la politique. On ne naît pas maire, on le devient. On ne naît pas président, on le devient. Il y a un moment, il faut juste accepter. Accepter les responsabilités qui sont devant vous.
Vous n'excluez pas pour verbaliser quand même les choses. Vous n'excluez pas 2022.
C'est pas mon sujet. En fait, mon sujet aujourd'hui, c'est que je pense que je travaille pour que ce qui s'est passé à Grenoble puisse se passer à l'échelle française. Ça s'est passé cette fois-ci à Strasbourg, à Poitiers, à Bordeaux, partout, à Marseille, évidemment. Donc ça fait des petits et on a envie que... j'ai écrit un livre il y a 9 mois pour dire aux écologistes, qui s'adressaient à tout le monde, mais le sous-titre de ce livre, c'est « Les villes réveillent espoir ». Pourquoi ? Parce que j'ai été convaincu qu'en face, ça passe par le faire et que c'est depuis les territoires qu'on peut montrer que le politique a encore un impact sur nos vies quotidiennes. Et c'était pour dire aux écolos, en fait, il faut changer de posture. Vous êtes dans une posture de contre-pouvoir, vous êtes dans une posture de corde de rappel d'un axe général qui serait déviant. Non, changer de posture, c'est une majorité culturelle, donner un débouché politique à cette majorité culturelle et ces nouveaux leaders qui émergent de partout, Bruno Bernard et Grégory Doucet à Lyon, François Astorg à Annecy, partout en France, aujourd'hui, y compris dans des villes moyennes, à Colombes, dans des grandes villes de banlieue, mais aussi dans des villages, et chez nous, à Saint-Égrève ou à Vizille, des villes de 10 000 et 15 000 habitants.
Justement, vous parlez de ces nouveaux leaders écologistes. Comment, à un moment, on les départage pour 2022 ? Est-ce qu'il faut passer par une primaire ou, au contraire, ça divise et c'est une machine à perdre ?
C'est pas trop, en fait, mon actualité aujourd'hui. Il y a des partis...
Ça va venir très vite.
Oui, mais il y a des partis qui sont là. Il y a des responsables de partis qui sont là pour décider comment ça se passe. Ce qui est important et fondamental, c'est que ça ne se décide pas dans un tout petit cénacle, parce que l'enjeu est majeur.
Alors Yannick Jadot est contre une primaire, il le dit ce matin dans le Journal du Dimanche, il dit que c'est...
Une machine à perdre.
Alors, et pour vous ?
Moi, je dis que c'est pas... Aujourd'hui, c'est vraiment pas notre sujet et que les partis devront réfléchir à cela. Mais par contre, qu'ils ne fassent pas un truc en petit cénacle...
Alors, jusqu'ici, vous étiez cash, là, vous l'êtes un peu moins. On ne comprend pas.
Je ne suis pas à la tête d'Europe Écologiste, c'est Julien Bayou. Je ne suis pas à la tête du Parti Socialiste, c'est Olivier Faure. Je ne suis pas à la tête de la France Insoumise, c'est Jean-Luc Mélenchon. Donc aujourd'hui, il y a des gens qui définissent des stratégies, on leur a confié une responsabilité, ils exercent cette responsabilité, ils vont discuter avec leurs militants pour définir quelle est la bonne façon d'arriver avec, si possible, un candidat, commun. J'avais travaillé à cela en 2017, je m'étais beaucoup investi pour que nos trois candidats se retirent au profit de Nicolas Hulot, parce qu'il me semblait que c'était en 2017, après la primaire qui avait fait gagner Benoît Hamon, c'était le candidat qui permettait à tous de les faire reculer en gardant leur dignité, en se disant ils choisissent le nouveau président, ils choisissent peut-être de tourner la page vers une 6e République, ils choisissent aujourd'hui de transformer le pays.
Donc vous voulez un candidat de toute la gauche, que ce soit représenté par un écologiste ou par un socialiste ou par un autre insoumis.
Aujourd'hui, les candidats socialistes, quand Olivier Faure disait qu'ils étaient en capacité de soutenir un candidat écologiste, ce qu'on voit, c'est quand les socialistes soutiennent les candidats écologistes, ça gagne. C'est plutôt une méthode qui a fonctionné dans les élections que nous venons de vivre.
Ils ont gagné beaucoup de villes, les socialistes, sur leur étiquette.
Ils ont gagné Nancy et Montpellier avec le soutien des écologistes.
Mais l'arc humaniste, puisque c'est votre expression, ça va jusqu'où ? Ça comprend quoi ? Par exemple, des personnalités de droite
C'est la vie authentique. Pour moi, c'est ceux qui se préoccupent de la vie authentique.
Est-ce que ça dépasse la gauche ? C'est ça aussi la question. Est-ce que vous vous dites maintenant les étiquettes, effectivement, on s'en fiche tellement que pourquoi pas un écologiste de droite, une personnalité de droite qui aurait des vraies valeurs et qui le prouverait, bienvenue à lui.
En fait, on ne peut pas lutter contre le dérèglement climatique en faisant de la reproduction sociale et en assumant les inégalités sociales. C'est juste pas possible. Comme le montre Thomas Piketty, ça n'est juste pas possible. Donc nous sommes... Ce combat à la fois qui est un combat philosophique, un combat anthropologique pour l'égalité des femmes et des hommes dans ce pays et partout, ce combat-là, évidemment, il se retrouve dans l'histoire de la gauche.
Voilà. Et quand Ségolène Royal se dit disponible pour vous représenter tous, pour vous, ça serait une solution
aujourd'hui, la question, ce n'est pas de choisir des candidats. Aujourd'hui, on doit construire un projet à mille mains. C'est la construction de ce projet. C'est ça qui nous entraîne vers quelque chose. On part du principe qu'en fait, nous avons des convictions communes, nous construisons ce projet collectivement et après se met au service qui veut. Et puis après, comme dans une équipe de foot, effectivement, il faut des gens à toute place. Effectivement, il faut choisir un numéro 9, celui qui mettra le but de la gagne. Il faut aussi choisir un arrière-droit, un goal, etc. Bon, je parlerai plutôt de rugby, qui est aussi mon sport, mais en l'occurrence, avec notre histoire de champion du monde.
Vous avez un point commun avec notre nouveau Premier ministre, avec
Jean Castex. Oui, Vic Fezensac, je vous l'ai dit. Il y a un axe quand même entre les Gersois et les Bernais.
Au moins un axe.
Dernière question peut-être sur la question de la composition de l'équipe, puisque Anne Hidalgo donne l'impression de vous soutenir. C'est plus qu'une impression. Hein. Vous avez participé à des clips en commun, etc. Vous pourriez être à ses côtés, elle pourrait être à vos côtés pour la suite.
Nous lançons avec Anne Hidalgo un réseau de ces villes que nous allons appeler Cité en commun quand on aura discuté avec tous les autres. C'est une proposition que l'on fait là parce qu'il nous semble fondamental de montrer ce cap politique qui se met en acte concrètement. Voilà. La lutte contre la pollution, la lutte pour le logement, pour une alimentation de qualité, pour une mobilité qui soit adaptée à nos besoins, tout cela, la lutte contre la publicité, la lutte contre le diesel et tout ce qui est proposer positivement dans cette éducation populaire, dans cette culture, c'est ça qui nous fait vibrer. Moi, je suis pas dans les écolos qui disent il y a attention, on est tout en train de s'effondrer, il y a une urgence majeure et qui travaille sur la question de la peur. Évidemment, si on regarde les trajectoires scientifiques, les trajectoires sont dramatiques. Mais ce qui va nous changer la vie, c'est de se reposer la question au lieu de nous laisser là dans notre comme un hamster dans notre roue où on ne parle que d'économie, que de consommation, alors, que de consommation. En fait, c'est de dire comment on a envie de vivre, tout simplement.
Comment on a envie de vivre.
Depuis dimanche dernier, et puis donc ces victoires dans plusieurs villes de France, les critiques, elles sont parfois extrêmement fortes. Michel Onfray, je le cite, « Les Verts sont plutôt sympathisants de l'antisionisme à l'endroit de l'islamo-gauchisme, plutôt communautariste. C'est une gauche qui n'aime pas beaucoup la République. » Faisons simple, vous lui répondez quoi ?
Moi, j'aime la République, toute la République, et c'est fondamental. Ces critiques-là, c'est des critiques d'un monde, comme d'ailleurs Macron a participé à cela, avec cet axe LREM-LR, où finalement, ils ont fait un front anti-climat. Vous l'avez entendu, à Lyon, comparer Bruno Bernard à Hitler, traiter les électeurs écolos de connards. Nous avons vécu ça en 2014. Là, de façon, ça a été encore accentué. Mais il y a vraiment ce front anti-climat qui se met en place, avec tous des discours de préjugés derrière et une espèce de verbe qu'on retrouve chez Zemmour, hein, qui est un délinquant. Il est condamné pour incitation à la haine raciale. On retrouve cette pointe avancée qui vient en fait faire un rempart contre ce qui est pourtant aujourd'hui une majorité culturelle en France.
Mais quand on parle de communautarisme, est-ce que pour vous c'est une réalité, ça existe en France, ou vous dites non, c'est un faux débat ?
Il y a évidemment un décommunautarisme en France et il faut toujours lutter contre cela, et je le fais à Grenoble évidemment avec détermination. Par contre, la vie en communauté, nous sommes une communauté de territoire, nous sommes tous, c'est Edgar Morin qui dit que nous sommes à la fois des individus avec notre questionnement intrinsèque, nous sommes des animaux et nous sommes des membres constituants de communautés.
Est-ce que vous le faites vraiment à Grenoble ? Est-ce que vous le faites vraiment à Grenoble ? L'été dernier, il y a eu cette affaire de femmes en burkini qui sont venues dans une piscine de Grenoble et vous aviez, semble-t-il, une position ambiguë, puisque vous avez renvoyé la responsabilité à l'État en disant voilà, c'est à l'État de décider si oui ou non c'est compatible avec la laïcité. Est-ce que pour
c'est la République et toute la République, c'est bien ça le débat.
Ça veut dire quoi ?
Ça veut dire que décider interdire. Si une piscine aujourd'hui les burkinis, et on a sanctionné, on a verbalisé c'est un tout petit groupe hein, de 5 ou 10 personnes qui en fait ce débat-là, ils le posent, ça nourrit l'extrême droite et ça nourrit les islamistes politiques. Donc j'ai refusé ce débat en disant nous aujourd'hui le règlement en piscine, il interdit cela, pas pour des raisons religieuses, il interdit cela parce que c'est hygiène et sécurité.
Mais est-ce que l'État devrait interdire le burkini dans les piscines ?
Il faut se poser la question, en fait, est-ce que la piscine, c'est une école ? Voilà. Est-ce que la piscine, c'est une école ? C'est ça la question qu'il faut se poser. Et la question suivante qu'il faut se poser, c'est que si on interdit les signes religieux dans la piscine, il faudra aussi interdire les croix, les tatouages religieux, le corps est nu dans la piscine. Hein. Donc ce rapport-là, ça mérite un débat, c'est ce que j'ai dit.
Mais est-ce qu'une piscine, c'est pas comme une école ? Pour vous, c'est une piscine, c'est comme une école ou pas ?
Ah non, une piscine, c'est pas comme une école.
D'accord. Donc c'est pas un lieu public qui doit être exempt de tout
règlement. Pour des raisons d'hygiène et de sécurité, encore une fois, refuse le burkini. Mais ce débat, on doit l'avoir de la France, comme on l'a eu pour l'école. On ne peut pas dire tout d'un coup dans un coin, là, la République.
Mais ce ne sont pas des compromis avec la laïcité que vous faites en disant
non,
ça ?
Moi, je suis laïque. Et en étant laïque, typiquement, on a changé effectivement de pratique. C'est-à-dire qu'au lieu d'aller voir juste les juifs et les musulmans, comme faisaient nos prédécesseurs, considérant finalement qu'ils représentaient la chrétienté, je vais voir toutes les communautés religieuses et également les athées, parce que cette spiritualité, elle doit être reconnue. La laïcité, ça reconnaît la spiritualité de chacun, qu'il soit croyant ou pas, et dans n'importe quel lequel de ses croyances. Voilà. Ça n'efface pas la religion.
C'est l'heure de questions express.
Le grand jury, questions express.
Éric Piolle, pour ou contre la disparition totale de la voiture en centre-ville ?
En centre-ville, pour.
Pour ou contre la poursuite de ministres devant la Cour de la justice de, justice de la République dans l'affaire du dans la crise du Covid ?
Je ne sais pas. Ce sera intéressant d'instruire le dossier. Honnêtement, je ne sais pas. Je pense que
judiciarisation de la vie politique, on dit, est-ce que ça vous inquiète pas ?
Bon, il y a eu l'histoire du sang contaminé. Il me semble que c'était légitime qu'il passe devant la
justice. Donc là, est-ce que ça serait légitime ou pas sur le Covid ?
Là, ça mérite d'instruire. Ça ne traumatise pas.
Pour ou contre, Éric Piolle, la régularisation de tous les sans-papiers ?
Oui, aujourd'hui, ils sont en France, ils sont là. C'est des habitantes et des habitants pour nous. Hein. On avait écrit une tribune avec Martine Aubry et Alain Juppé à l'époque, à Troyes. Pour nous, c'est des habitants. Donc, comme ils sont là et comme ils ne vont pas refaire 6000 km dans l'autre sens pour retraverser les Alpes, retraverser la Méditerranée, retraverser l'Afrique.
Donc, on les régularise tous.
Bah, de toute façon, sinon, on les laisse dans un no man's land. Hein. Puisqu'ils sont là,
combien
on ne les excuse pas.
Combien sont-ils aujourd'hui pour vous ? Combien sont-ils les sans-papiers aujourd'hui en France ?
Ça va être quelques dizaines de milliers. Ça reste très faible si
on
regarde les
croissance. On dit entre 150 000 et 200 000.
Oui, c'est quelques dizaines de milliers. C'est 150
000,
ça fait
donc on régularise 150 000 à 200 000 personnes.
Bah, vous savez qu'on a aujourd'hui.
Non, mais c'est votre position.
Oui, c'est notre croissance. L'hospitalité, oui. Qu'est-ce que ça dit en fait ? Nous allons avoir, on le sait, des bouleversements climatiques qui, même si on s'y met tous, là, vont être majeurs. Donc nous avons à avoir dans le monde des déplacements de population qui sont majeurs. Aujourd'hui, la question des réfugiés, elle est essentiellement interne aux pays touchés. Ils bougent d'abord dans leur pays, ils bougent ensuite dans les pays limitrophes, et il y en a 1 ou 2% qui vont dans les pays occidentaux. Penser qu'on va s'enfermer comme ça, c'est les mêmes qui veulent s'enfermer dans des ghettos de riches, bien barricadés par des murs. C'est pas mon regard sur l'avenir, je crois en l'humanité.
Très rapidement, pour ou contre l'interdiction de Airbnb ?
Oui. Pour la limitation, l'interdiction, non.
Limitation. Limitation. Pour ou contre la légalisation du cannabis, Éric Piolle ?
Pour
la légalisation du cannabis.
Oui, d'accord. J'ai jamais fumé de ma vie, mais aujourd'hui, bon. Quand on regarde, ni même de cigarettes d'ailleurs, mais quand on regarde aujourd'hui l'explosion de la consommation, qu'on voit qu'on y met tous nos efforts en matière de sécurité sans aucun succès et que finalement on ne fait aucune prévention, je pense que nous devons mobiliser nos moyens sur la prévention pour ces majeurs. Hein, un pays qui se drogue est un pays qui va mal.
C'est entendu. Pour ou contre la police municipale armée ?
Contre.
Et
elles sont armées, pistolets. Elle est armée de pistolets à impulsion électrique, elle est équipée de caméras piétons, donc elle est équipée, pas d'armes à feu.
Vous parlez-vous de violence policière dans notre pays ?
Il y a des débordements toujours. Moi, ce qui me frappe, c'est qu'on met nos policiers aujourd'hui dans des situations qui sont intenables. Voilà. On les envoie face aux gilets jaunes. S'ils n'avaient pas leur tenue, ils seraient en train de manifester. Nous avons besoin d'une police qui soit formée, respectée, elle l'est grandement, et qui développe aussi une culture des valeurs. Pour comparer, moi qui côtoie les militaires, je ne sais pas avant, mais depuis 2014, j'ai vu dans l'armée... un socle de valeurs et de transmission qui mériterait, je pense, d'être développé dans la police. Après, l'essentiel font un boulot extrêmement compliqué, les policiers. Mmh. Je suis à leur côté tous les jours. Il y a forcément des débordements. C'est normal que ces débordements soient sanctionnés. C'est comme ça que le cadre, et quand on dépasse du cadre, on est sanctionné. C'est ça qui permet une éthique collective.
On passe à question nette.
Le grand jury, question nette.
Bonjour Marie-Pierre Haddad.
Bonjour à tous, bonjour Éric Piolle. Alors durant cette émission, les internautes ont retenu vos déclarations sur la 5G. Et plus particulièrement quand vous avez dit que la 5G va servir à regarder des films porno en HD dans l'ascenseur, donc je vous cite. Et ils sont plusieurs à vous avoir trouvé assez caricatural quand même dans vos propos et à ne pas avoir vraiment répondu à la question. Il y en a aussi qui ont souligné votre trait d'humour. Est-ce que vous ne caricaturez pas le progrès quand vous dites ça ?
Je provoque, évidemment, mais c'est mon tempérament. J'ai un tempérament un peu sanguin, et à la fois bon vivant et sanguin. Donc, évidemment, je provoque. Je crois que je n'ai pas envie qu'on ait la 5G, la 6G, la 7G, et que, par contre, si je suis à 50 km de Grenoble aujourd'hui, dans une ville moyenne, eh ben, en fait, je ne peux pas bosser si je suis architecte ou patron de PME, parce que je n'ai pas le réseau Internet qu'il faut.
Provocation, réaction. Autre question.
Oui, alors vous avez parlé du remaniement durant cette émission et Ségolène Royal, elle, a indiqué il y a quelques minutes que des proches du président de la République l'avaient contactée et elle a répondu « Si c'est pour mener une politique plus sociale et plus démocratique, faites-moi une proposition. » Donc est-ce qu'elle pourrait faire une bonne ministre de l'écologie, d'après vous ?
Bah, elle l'a été déjà.
Bah, à nouveau, ouais. Du coup, dans le gouvernement de Castex.
Ça lui appartient. Moi, ce que je dis, c'est qu'on ne peut pas.
Le cap que
porte Macron n'est pas celui-là. Certains y ont été, ils se sont brûlés les ailes.
Mais ce serait une ambition personnelle ou elle serait une bonne représentante de l'écologie ?
J'ai rien à dire là-dessus, vraiment.
D'accord, mais autre question alors.
Oui, alors on enchaîne. Il y a un nouveau cluster qui a été identifié à Lyon, chez les Verts, après la victoire de votre candidat Grégory
Doucet. Ça vous fait sourire.
Oui, bah oui, ça fait rigoler parce que, en fait...
Oui, mais attendez la question, attendez la question.
Cluster, une soirée électorale, c'est pas drôle. Enfin, c'est
oui, mais justement, bon, voilà. La question.
Donc justement, on voulait savoir s'il n'y avait pas un problème d'exemplarité face à la pandémie. Est-ce qu'il n'y aurait pas dû prendre des mesures suffisantes de distanciation sociale pour éviter justement qu'il y ait un nouveau cluster qui...
Bah pour l'instant, le cluster, on ne le connaît pas. Ils sont en train de faire des recherches pour savoir. Il y a un candidat qui a été contrôlé positif.
Il y a 10 personnes
contrôlé,
qui ont été
comme
si c'était
du dopage. Donc, qui a été testé positif. Et donc, ils sont en train de regarder les personnes qu'il a côtoyées. Donc, ça, c'est notre cas partout. Moi, j'ai géré la crise du Covid. Évidemment, cette question est dans les futures crises. Notre capacité à identifier très vite. Et à isoler et à continuer à avoir des mesures de protection. J'aime pas le terme de gestes barrières, mais des gestes de protection, c'est fondamental. Mais j'ai vu Grégory et Bruno et ils ont fait leur discours avec des masques. Hein.
Merci Éric Piolle, c'était votre grand jury et c'était le dernier grand jury de la saison. Merci à tous pour votre fidélité, merci à nos partenaires Le Figaro et LCI. Un grand merci à Catherine Mangin, Chantal Busson, Catherine Chevillon pour leur aide précieuse. Merci aux équipes techniques, aux réalisateurs qui ont permis chaque dimanche de vous proposer cette émission, y compris pendant la pandémie. On se retrouve en septembre pour une nouvelle saison un peu particulière puisque le grand jury fêtera ses 40 ans. D'ici là, bon dimanche et bel été à tous.